Je vous remercie beaucoup, professeur Jean-François Carayon, pour cette introduction. Et je vais en fait discuter certains passages de cet article que j'ai publié dans une numéro dirigé par vous. Alors, l'objet de mon exposé aujourd'hui est la conceptualisation que Fougère propose dans son esquisse d'une phénoménologie du droit de l'État universel et homogène et du sujet qui lui correspond, le citoyen. L'État universel et homogène est défini par Fougère comme un État de type cosmopolite, puisqu'il implique l'humanité tout entière, et comme un État dans lequel il n'y aura plus de variation, c'est-à-dire guerre ou révolution. Il sera par conséquent un État post-révolutionnaire. Mon objectif est de restituer ce modèle étatique et juridique cosmopolite tout en le situant dans le cadre de la pensée post-révolutionnaire de Fougère. Par cela, on entend la nécessité de penser l'histoire de manière complètement immanente à l'homme, sans penser le plein horizon transcendantal, soit-il de type théologique ou téléologique. Le thème de la fin de l'histoire chez Fougère signifie qu'il n'y a rien en dehors de la temporalité contingente et humaine, ni un fondement divin, ni un pouvoir collectif de fondation ou de refondation de la communauté politique qui serait capable de produire une nouvelle temporalité historique dirigée vers un télos progressif. Le questionnement historique est donc chez Fougère questionnement anthropologique ou interrogation sur la constitution du sujet. On propose ici d'écarter une lecture de la thèse de la fin de l'histoire dans son sens réel, en tant que mouvement historique dans lequel sont pris les hommes et les choses. De ce point de vue, il est impossible de soutenir que l'histoire soit finie. Le sens le plus juste à donner à ce thème est donc « Comment penser l'histoire sans postuler un singulier collectif en tant que sujet et moteur de ce devenir ?» Comment, pour le dire autrement, penser une histoire sans peuple ou sans ce peuple qui a été pour la modernité occidentale la collectivité nationale ? Il me semble que c'est le sens de l'interrogation de Fougère et de son travail sur le droit, qui est envisagé dans l'esquisse comme le moyen qui opère la transition de la nation au citoyen en tant que sujet de l'histoire. Or, Fougère arrive à se poser cette question pour deux séries de raisons qu'il cherche à récomposer dans l'esquisse. Il y a des raisons historiques. Fougère part du constat que l'ordre étatique européen a été ébranlé par la Seconde Guerre mondiale et que la forme nationale ne garantit plus la mise en place d'une société juste. Il y a ensuite des raisons philosophiques. L'objectif de l'homme est pour Fougère le savoir absolu ou la sagesse. Le sage, écrit Jean-François Kervégan, se définit par la conscience de soi absolue ou radicale. Il incarne la parfaite transparence à soi du savoir. La sagesse implique par conséquent une parfaite coïncidence entre le savoir, donc le concept, et la vie humaine, qui est dans le temps. Le droit est l'un des moyens qui permet de créer les conditions pour qu'il y ait un système du savoir absolu dans lequel il y ait une correspondance parfaite entre le temps et le concept. Le thème du droit est traité par Fougère à partir du problème de son évolution dans le temps. Le droit est, nous dit le philosophe, un phénomène essentiel pour toute réalité humaine, surtout si on considère celle-ci à partir de sa dimension politique. L'émergence du droit doit donc être considérée dans le temps, et cela à partir de la philosophie de l'histoire hegélienne, telle qu'elle a été réinterprétée par Fougère lui-même. La raison de la torsion que le philosophe russe fait subir au système hegélien est philosophique, au sens où l'objectif est la possibilité pour le philosophe d'arriver à la sagesse, c'est-à-dire à la connaissance, selon la lecture proposée par Jean-François Kervégan. La catégorie de la fin de l'histoire ne se comprend donc qu'en relation avec la sagesse ou la science, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme d'être pleinement humain dans la conjonction du temps et du discours. Cependant, entre les coups qui ont donné vie à l'introduction et l'écriture de l'esquisse, il se passe une rupture historique majeure. La Seconde Guerre mondiale, le nazisme et l'identification entre la forme nationale et la violence totalitaire. Le philosophe se trouve ainsi directement confronté dans son expérience à la nécessité de réaliser la fin de l'histoire entendue comme projet humaniste, c'est-à-dire comme la nécessité de neutraliser l'élément de violence radicale du politique et de l'histoire. Ce qui est en jeu dans le passage de la nation à l'État universel et homogène, c'est l'actualisation du droit, donc son être réel. Le droit, dit Fougère, d'une société organisée en État ou non, ne peut être réel qu'en puissance, si cette société n'englobe pas l'humanité entière.
Il est par conséquent nécessaire au droit de pouvoir s'étendre sans limite territoriale. C'est pourquoi la nation est une forme politique qui ne convient plus à l'époque post-révolutionnaire. C'est bien le passage de l'échelle nationale, pour utiliser une langage étranger à Kojève, à l'échelle mondiale, qui permet au droit, au tiers impartial, de mettre en œuvre le passage à la fin de l'histoire. La division de la terre en unités juridiques et politiques séparées est l'un des enjeux du débat entre Carl Schmitt et Kojève. Ce dernier ne fait pas mystère de l'influence et de la fascination que le juriste allemand a exercée sur sa pensée. Les traces de la distinction ami-ennemi comme critère du politique sont bien visibles dans l'esquisse. La définition de l'État, avant son évolution dans l'État universel et homogène, implique deux critères. Le premier est qu'il y a un rapport de solidarité à l'intérieur de la société qui constitue cet État, et un rapport d'opposition et d'inimitié vis-à-vis de ceux qui ne sont pas membres. Le second critère consiste dans l'existence à l'intérieur de cette société d'un groupe de gouvernants distingués de gouvernés. Les deux conditions sont nécessaires. Kojève précise ensuite que, je cite, « ami et ennemi signifie ami politique et ennemi politique ». En fin de compte, l'ami est le frère d'armes et l'ennemi militaire qui doit céder ou mourir. Et s'il ne cède pas et n'est pas tué, il faut mourir soi-même. Kojève, dans l'esquisse, s'arrête sur les relations entre les droits nationaux et sur le lien entre le droit, la nation et la frontière. La fin de la Seconde Guerre mondiale accomplit la transformation historique déjà engagée à l'époque post-révolutionnaire par un changement d'échelle, une transformation de modalité spatiale de l'action et du discours politique. C'est dans l'esquisse que la vision du politique de Kojève trouve son expression la plus complète. Il pose le problème de l'intégration des États-nations et de leurs histoires dans une histoire du monde et dans une société mondiale au-delà de toute fondation révolutionnaire. Le mouvement temporel et l'évolution du politique dans le droit remplissent la fonction d'intégration qui était celle du mouvement révolutionnaire. La constitution de l'humanité dans une seule et unique société est le nécessaire aboutissement et en même temps le dépassement de la conception moderne de l'histoire. Le passage à l'époque post-révolutionnaire se réalise à travers deux mouvements. L'un est l'expulsion de tout élément hétérogène du système, qui est à la fois le système juridico-politique et le système du savoir absolu. L'autre, qui lui est corrélatif, est le passage du point de vue de l'acteur à celui du spectateur. Pour en comprendre la signification, il faut partir de l'opération de relecture de la phénoménologie de l'esprit faite par Kojève. L'histoire est l'histoire du désir, elle est négation de l'immédiateté naturelle, elle a un début et une fin. On fait ici référence aux pages introductives de l'introduction. Kojève y présente sa vision de la lutte entre le maître et l'esclave comme lutte anthropogène, c'est-à-dire comme le moment qui crée l'homme en tant que tel, à travers la reconnaissance du désir, et en même temps c'est également le moment qui donne origine à la temporalité historique. C'est en effet la raison pour laquelle Kojève place la lutte à mort au début de l'introduction. On ne reviendra pas ici sur ces pages, bien connues et commentées. Les premières phrases de l'introduction contiennent déjà les thèmes qui occuperont Kojève dans l'esquisse. Je cite « L'homme est conscience de soi. Il est conscience de soi, conscient de sa réalité humaine, et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal. Et cette conscience se produit dans le rapport entre les hommes, défini comme réalité sociale, et l'action historique, le désir du désir en étant le moteur. La différence entre le désir anthropogène et le désir animal est ici capitale. Kojève introduit ainsi la coupure essentielle entre l'esprit et la nature, entre l'homme et l'animal, et, je soutiens, entre le temps et l'espace. L'action productrice de l'histoire n'est plus chez Kojève la lutte pour la conquête d'une donnée matérielle, mais au contraire, elle est une lutte pour ceux qui n'existent pas en nature, pour le désir et pour la reconnaissance de son propre désir comme humain. Pour obtenir cette reconnaissance, l'homme est disponible à mettre en jeu et à nier sa propre réalité naturelle, d'où la relation profondément ambiguë que l'homme entretient avec la nature. Kojève insiste sur le fait que sa conception du rapport de l'homme et de la nature n'est pas dualiste, mais au contraire dialectique. En effet, c'est dans le processus historique que se réalise le développement de la contradiction qui a son origine dans la lutte pour la reconnaissance. À cet égard, le concept et la réalité ne coïncident pas au début, mais seulement à la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la fin de la lutte dialectique entre désir de désir qui donnera lieu aux citoyens satisfaits et membres reconnus d'un État universel et homogène. C'est pour cette raison que, comme le remarque Jarzik à la barrière, s'il y a un dualisme entre la nature et l'homme, il est temporel et non spatial. La nature a existé avant l'homme et sans lui, mais depuis l'homme, elle n'a de sens que d'être niée pour apparaître comme esprit. Ici, on propose de retracer un parallèle entre le rôle de la nature dans l'introduction et le rôle de l'espace dans l'esquisse. Tout comme dans l'introduction, la nature, l'élément animal, est hétérogène parce qu'irréductible à l'équation entre le temps et le concept, doit être niée par l'action humaine, qui fonde ainsi la temporalité historique. Dans l'esquisse, la différence naturelle, l'espace en tant que ce qui constitue le théor, ou pour le dire avec Georges Bataille, la tâche aveugle de l'État, doit être réduit à un espace homogène. En effet, Kojève soutient dans l'esquisse que le droit ne peut se réaliser qu'à l'intérieur d'un État qui a le contrôle total sur ses frontières, dont aucun criminel ne pourrait donc s'échapper pour se soustraire à la justice. L'évolution du droit et l'évolution de l'État vont de pair, je cite, « Le dehors n'existe pas pour la société en tant que société que dans la mesure où ce dehors est social, en étant lui-même une société, une autre société. Il n'y a pas de droit réel en dehors de la société universelle de la fin de l'histoire. Cependant, comme le droit, l'État aussi a tendance à évoluer et à devenir universel. Le processus téléologique est propre aux États comme à leur droit. Toute entité a tendance à réaliser la coïncidence entre l'idée et la réalité en acte, de même que toute possibilité tend à se réaliser un jour, à la seule condition que le temps soit suffisamment long. Le mouvement dialectique et téléologique du droit est parallèle à celui de l'État. C'est pourquoi le devenir réel du premier implique de manière nécessaire l'accomplissement d'une société mondiale. Au mouvement téléologique de la temporalité historique correspond chez Kojève la construction d'un espace sans dehors, c'est-à-dire d'un espace unifié qui réalise l'identité entre le devenir temporel, l'acte et le concept du droit. C'est l'introduction du regard impartial du tiers lors de la scène anthropogène de la lutte à mort entre le maître et l'esclave qui permet de se placer dans la perspective post-révolutionnaire. Et c'est le regard du tiers qui est à l'origine du droit, qui fait basculer la lutte pour la reconnaissance dans la fin de l'histoire. Cependant, si l'espace de l'État universel et de la société homogène est un espace sans dehors, il n'y a plus aucun point qui échappe à la circularité du temps et du concept, il n'y a pas aucune tâche aveugle, cette homogénéité est le résultat d'un processus, elle n'est pas déjà donnée a priori. Pour Kojève, la seule possibilité d'aboutir à une citoyenneté universelle est de sortir de la modernité, cette sortie étant en même temps son parfait accomplissement. La citoyenneté universelle exige l'homogénéité du droit et du sujet du droit, c'est-à-dire le citoyen. Les normes de la société mondiale doivent être valables à tout moment et en tout lieu. Il n'y a de citoyenneté universelle que quand elle est étendue à l'humanité entière, c'est-à-dire quand elle est valable n'importe où, pour n'importe qui et à n'importe quel moment. Kojève expose le passage de la lutte dialectique pour le désir du désir à une société universelle et homogène dans la deuxième section de l'esquisse intitulée « L'origine et l'évolution du droit ». Le besoin d'être reconnu par des égaux et de pouvoir les reconnaître à son tour amène le spectateur de la lutte à être impartial. C'est la clé de tout le système politique de Kojève. Sa pensée pourrait être définie comme hyper-moderne, puisqu'il pousse à cette extrême conséquence la vision cohérente définie comme l'essence de la philosophie de l'histoire hegelienne, soit la constatation que la vérité de l'histoire est dans le regard du tiers, du spectateur extérieur et détaché. Le tiers juge de manière désintéressée l'équité de la lutte entre le maître et l'esclave. Il veille à ce que les conditions de la lutte soient les mêmes partout et à tout moment, et il le faisait par besoin d'équité, soit par nécessité de reconnaître et d'être reconnu par des égaux. C'est uniquement l'hypothèse d'un tiers qui soit spectateur externe de la lutte à mort qui permet de comprendre la vérité des interactions humaines, c'est-à-dire leur justesse. C'est le tiers qui rend possible la fin de l'histoire à travers la fin du conflit. Il est déjà en dehors de l'histoire, puisque, comme le dit Kojève, il est déjà humanisé et il y a déjà nié la part d'animal et de nature qui est le moteur de l'histoire. Schmitt fait explicitement référence au lien entre la figure de l'ennemi et les fonctions animales chez Hegel. Et on ajoute, surtout chez Kojève, dans sa lettre du 14 décembre 1955. Et Kojève répond dans sa lettre du 1er janvier 1956 que les fonctions animales peuvent constituer l'ennemi uniquement tant qu'il y a une histoire révolutionnaire et que l'état post-révolutionnaire du savoir absolu n'a pas encore été atteint. L'animal, en tant qu'ennemi, et surtout, je dirais réciproquement, tombe fatalement à l'intérieur, et non pas non plus en dehors, de la circularité de l'histoire et du concept, parce qu'il est ce qui ne peut pas être dit et par conséquent qui ne peut plus être compris. Et avec l'animal, l'espace est absorbé à l'intérieur du système post-révolutionnaire. La réalisation de l'égalité signifie la mise en place d'une justice en tant que conformité ou homogénéité. Cette homogénéité est définie comme la négation ou l'expulsion de tout élément naturel ou animal de l'univers de l'homme et de l'histoire. La société uniforme et homogène est par conséquent dépourvue de toute composante irréductible à une équivalence, irrémédiablement hors mesure et hors norme. La conformité se réalise par élimination progressive des différences géographiques et des différences temporelles, de même que le droit ou la justice doit être valable partout et en tout temps. La stabilité de la police n'est pour que j'aime rien d'autre que sa complète humanisation. Le contrôle et l'autonomie du citoyen sont complets partout et à tout moment. Que pourrait-il y avoir de plus moderne? La réalisation de la téléologie moderne de l'histoire implique non seulement l'expulsion de tout ce qui est animal, mais du politique au sens traditionnel du terme. Le tiers impartial est le maître qui est sorti vainqueur de la lutte à mort et qui s'assure que les autres luttes se passent de manière équitable. La fin de l'histoire n'est donc rien d'autre que la fin du politique. La société dans laquelle il y a uniquement des relations d'amitié entre les citoyens est en même temps une société dans laquelle s'efface la distinction entre gouvernant et gouverné. La différence essentielle entre les modèles d'État ne tient pas dans leur type de gouvernement, mais dans le fait qu'ils aient ou non un gouvernement. L'existence de la politique du gouvernement signifie toujours en dernière instance qu'un groupe, au moins de temps la société, est exclu ou forcé à reconnaître des leaders et à mettre en exécution des décisions qu'il n'estime pas être véritablement justes. Il n'y a pas de justification pour le gouvernement de certaines personnes sur les autres. Dans ce sens, il y a une étrange analogie entre Kojève et Arendt. Pour cette dernière aussi, l'idéal politique est l'isonomie, c'est-à-dire l'absence de gouvernement. Cependant, si pour Arendt l'absence de gouvernement se traduit par une participation de tous les citoyens au pouvoir politique de manière égale, sans qu'il y ait donc de gouvernant, pour Kojève, l'absence de gouvernement se traduit par l'abandon même du politique en tant que source de différences et de conflits. La politique n'est pas nécessaire pour l'administration de la justice, elle est au contraire un obstacle. L'impartialité du tiers et sa conformité à l'humanité entière, c'est-à-dire aux citoyens de la fin de l'histoire, nous amène donc à la fin du politique et du conflit. En effet, seulement dans un État universel et homogène ou empire, dans lequel le droit garantit l'existence de conditions égales, il sera possible d'être vraiment désintéressé, c'est-à-dire quelconque, sans restriction, d'une manière générale, chacun y peut jouer le rôle d'un autre. On a nulle raison de supposer qu'il jouera autrement que l'autre un rôle juridique. Mais si l'État est vraiment universel et homogène, pour Kojève, il ne pourra périr ni changer. Le travail d'unification et d'homogénéisation des conditions de la vie humaine qui sera garanti de l'évolution du droit et par l'unification des histoires et des espaces nationaux fera également en sorte qu'il n'y ait plus de conflits ni de mutations. L'État semble devoir se maintenir indéfiniment dans l'identité avec lui-même. Le résultat du devenir de la dialectique de l'histoire est la réalisation de la pleine conformité au droit. Les citoyens obéissent aux normes juridiques de manière volontaire, puisqu'ils reconnaissent qu'elles auraient pu être établies par quiconque. Le droit absolu ne peut donc pas se réaliser s'il y a un conflit entre différents groupes à l'intérieur de la société, parce qu'il ne serait pas reconnu par tous les citoyens de manière indifférenciée et qu'il y aurait besoin d'une force de coercition, c'est-à-dire d'un gouvernement, pour que les lois soient respectées. Le droit absolu, s'il n'est jamais réalisé, ne pourra l'être qu'à la fin de l'histoire. Tant que la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin du politique entendu comme opposition entre l'ami et l'ennemi, ne sera pas réalisée, il ne pourra pas y avoir un système absolu du droit et un empire universel et homogène. Il faut noter que le conflit politique n'est pas complètement exclu de la pensée kojévienne. Il est le moteur de la dialectique historique et aussi ce qui permet au tiers d'intervenir. Le conflit est présent au début de l'histoire et au cours de son devenir, mais il disparaît avec l'histoire même, grâce à l'intervention du tiers impartial. Je cite « Or là où il n'y a pas de conflit possible, il n'y a pas de place pour l'intervention d'un tiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour un droit. Et du moment qu'il n'y a pas de conflit possible, il n'y a pas non plus de place pour une injustice quelconque. » On pourrait dire que les rapports civiques entre citoyens sont justes par définition. Mais là où la possibilité même de l'injustice n'existe pas, il n'y a pas non plus de justice en acte. » Fin de citation. La citoyenneté universelle consiste donc à la pleine indétermination de tous les individus qui font partie de la société. L'indétermination et l'universalité du citoyen se réjoignent dans l'homogénéité qui rend possible l'identification entre le concept et son actualisation, et cette homogénéité à la fois temporelle et géographique. La fin de l'histoire élimine le conflit en tant que facteur d'hétérogénéité. Les différences idéologiques et de valeurs ne comptent pas dans la détermination de la typologie d'une société. L'empire universel et homogène, qui se réalise à la fin de l'histoire, prévoit donc la substitution du politique par l'administration. Ainsi, le citoyen de l'Empire ne sera ni gouvernant ni gouverné. Au final, être citoyen ne sera donc rien d'autre qu'être un être humain, dans le sens plein et fort du terme, et le statut de citoyen sera le statut de l'être humain en tant que tel. La mesure de la citoyenneté et de sa justesse est pour que j'aime le droit incarné par la figure du tiers qui est en dehors de l'espace, au-delà de tout conflit et donc de toute différence. C'est le passage de la puissance à l'acte, le passage de la lutte du maître et de l'esclave à l'équivalence du droit, qui permet de rendre tous les événements politiques mesurables par le droit. La capacité de la part du tiers à faire abstraction des conditions du conflit et à reconduire les différentes circonstances de la lutte à mort à un critère d'équivalence donne vie au droit universel et homogène. Le projet cogévienne d'une société qui implique l'humanité entière n'est rien d'autre que l'idée d'une société sans dehors, c'est-à-dire une société qui est homogène partout et toujours et dans laquelle il n'y a pas d'élément irréductible à cette justesse commune exercée par le droit et par la personne du tiers, qui est le citoyen. La réalisation de la justice n'implique pas l'amélioration des pratiques politiques existantes, mais la promotion d'un État universel, homogène et non politique. L'homogénéité spatiale, c'est-à-dire l'élimination des frontières entre les États, et l'homogénéité temporelle, c'est-à-dire l'actualisation du système du droit, correspond donc à la réalisation d'une société dans laquelle le problème essentiel, celui du politique, est éliminé. Le politique est ainsi associé à l'hétérogène. L'homogénéité est la condition essentielle de l'autonomie d'une société. L'absence de dehors est la condition nécessaire d'une société juste. L'homogénéité spatiale et temporelle permet seule la réalisation de la société sans politique. Une société apolitique ne pourra donc avoir un droit actuel permanent qu'à condition d'être universelle, d'englober l'humanité entière. Le statut du citoyen dans l'État universel et homogène n'est pas politique. Il recoupe plutôt celui de l'être humain en tant que tel. La tâche de l'État universel et homogène sera donc de veiller à ce que ce statut soit conservé et à ce que les différences, les éléments hétérogènes et irréductibles aux citoyens en tant qu'êtres humains ne prennent pas le dessus. Merci.